Monique Lecouffle et Sylvie Lepetit, bonjour à toutes les deux.
Bonjour Sandra.
Bonjour Sandra et bonjour aux auditeurs et aux auditrices de Radio Maria France.
Alors aujourd'hui, vous allez nous inviter à entrer dans la consolation.
Alors que nous sommes en train d'avancer à grands pas dans le Saint-Carême, puisque dans 10 jours, nous entrerons dans la Semaine Sainte, nous poursuivons d'émission en émission le partage de notre émerveillement devant l'amour du Seigneur pour chacun et chacune d'entre nous. Les grands et les tout petits, les miracles de la miséricorde, même en ce temps du carême, qui est plus austère à la suite de Jésus, nous donnent encore et toujours de rejoindre le thème de Radio Maria cette année. Je vous annonce une grande joie. Aujourd'hui, avec notre témoin, Sylvie Lepetit, nous désirons vous inviter à entrer dans la consolation. Pour celles et ceux d'entre vous qui en ont tant besoin et qui n'ont pas encore accueilli ce don du Seigneur de la vie pleinement, nous désirons aussi inviter à avancer plus profondément dans la consolation celles et ceux d'entre vous qui y avaient déjà goûté, car les miséricordes du Seigneur sont infinies. Et parmi nous, il peut y avoir certaines personnes qui peuvent craindre de moins aimer l'enfant qui n'a pas vu le jour en accueillant la consolation. Il peut y avoir en nous un poids de responsabilité, de culpabilité qui nous interdirait d'être consolés. À vous aussi, nous nous adressons en vous invitant instamment à vous ouvrir au désir de recevoir cette consolation. Ainsi que nous le dit l'Écriture sainte, Dieu peut d'un mal tirer un plus grand bien. Mais pour comprendre ce plus grand bien, il nous faut regarder l'histoire du Christ qui mène cette parole à son accomplissement. Oui, il semble que l'histoire de Jésus de Nazareth est la plus grande lumière que nous ayons sur le mystère de la souffrance. Et je crois la seule, l'unique vraie consolation sur cette terre. L'histoire de Jésus est l'échec le plus cuisant de toute l'histoire de toute la Bible, un désastre. Le Fils de Dieu est mort, les anges se taisent, rien de plus tragique ne pouvait se passer sur cette terre de larmes. Pourtant, la mère du Fils de Dieu brisée porte dans son silence la lueur de sa foi, et il suffit d'une flammèche qui vacille pour soulever le lourd manteau de la nuit. Elle croit encore, elle espère, le cœur transpercé, la mère du Fils de Dieu, mort, attend la consolation, elle attend encore le consolateur. Le dernier mot de l'histoire du Christ n'est pas sa mort violente, mais la joie étonnante, la joie timide, la joie tremblante et craintive du matin de Pâques. À la croix, Jésus nous a toutes et tous confiés à cette mère de miséricorde. C'est à elle, Marie, notre mère, la mère des vivants, que nous confions notre invitation à avancer avec elle à la suite de Jésus pour accueillir toute la consolation dont chacune, chacun a tant besoin au décours de la vie et de ses épreuves. Nous pouvons aussi être aidés par la lecture d'une lettre que nous donne Bénédicte de Lellis. Elle l'a appelée Lettre à ceux qui attendent la consolation. Et elle nous écrit en page de garde, Avec toi, j'attends. J'attends le consolateur. Je sais qu'il vient et qu'il fera jaillir au fond de toutes nos peines l'invincible joie de sa résurrection. Par nos voix et nos mots, à vous qui nous avez rejointes aujourd'hui par Radio Maria France, Sylvie et moi sommes unies dans l'espérance confiante de la venue de Jésus, notre unique Sauveur, notre Rédempteur, et nous vous invitons instamment à ouvrir les cœurs. Vous savez, que pour celui, pour celle qui croit l'espérance, c'est promesse de notre Dieu, donc certitude. Chacune et chacun de nous sommes uniques. Et c'est la Providence qui écrit notre histoire unique. Il est fidèle et patient, notre Dieu, et il désire le bonheur et le salut de chacune, chacun et tous ses enfants qu'il a choisis et aimés de toute éternité. Alors, je citerai le psaume 8, je ne peux pas résister à le citer, il est trop beau. C'est toi qui as créé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je reconnais devant toi le prodige, l'être étonnant que je suis. Étonnantes sont tes œuvres, toute mon âme le sait. Mes os n'étaient pas cachés pour toi quand j'étais façonnée dans le secret, modelée aux entrailles de la terre. J'étais encore inachevée, tu me voyais. Sur ton livre, tous mes jours étaient inscrits, recensés avant qu'un seul ne soit. Que tes pensées sont pour moi difficiles. Dieu, que leur somme est imposante, je les compte, plus nombreuses que le sable. Je m'émerveille, je suis encore avec toi. Oui, vraiment, nul n'est comme notre Dieu, et nul n'est comme toi, Sylvie. Nul n'est comme Sandra, nul n'est comme Bruno, qui est avec nous dans le studio, ni comme aucune et aucun d'entre vous, que nous rejoignons par nos voix. C'est maintenant toi, Sylvie, qui va inviter, en partageant le témoignage de ton histoire de vie que tu as écrit et diffusé dans un livre. C'est un livre témoignage dont le titre est « Le deuil défendu, regarder en face la blessure de l'avortement ». L'éditeur est les éditions Saint-Léger et la collection Les Impertinents. Quelle aventure, une vie, hein ! Tu as osé, toi, rompre le silence, sois-en vivement remercié parce que c'est rare. Tu l'as fait comme Joël, que nous avons entendu ici et dont j'ai aussi partagé le témoignage qu'il avait écrit dans son livre. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux. Alors, si tu veux bien, puisque tu l'as fait par écrit, c'est encore plus beau de venir en témoigner par ta voix. Est-ce que tu peux nous évoquer ce chemin qui a été long, n'est-ce pas, entre ta jeunesse et l'épreuve de l'IVG jusqu'à l'ouverture vraiment grande au temps de la consolation.
Merci Monique de m'inviter à témoigner et merci aux auditeurs d'accueillir ce témoignage avec un cœur miséricordieux. J'ai aujourd'hui 60 ans et c'est encore douloureux pour moi d'évoquer ce sujet. À l'âge de 17 ans et demi, j'ai malheureusement, comme beaucoup de jeunes filles un peu naïves, je me suis laissée entraîner à avoir une relation sexuelle non consentie. Voilà, aujourd'hui, ça me semble difficile à comprendre, mais aujourd'hui, je suis une femme mature, donc c'est compliqué de comprendre cette adolescente que j'étais et de comprendre pourquoi ça m'est arrivé.
Ça s'appelle un viol. D'ailleurs.
Voilà, alors merci Monique de mettre le mot. J'avoue que...
Oui.
J'ai eu beaucoup de mal à mettre ce mot, le mot viol, je le trouvais justement violent. Hein, viol, violent, c'est la même famille de mots. Mon éditeur Jean-Louis Giard a mis ce mot sur la quatrième de couverture. Il a, pour lui, ça ne faisait aucun doute. Et voilà, et ça m'a aidé aussi à accepter ce que j'avais vécu. Donc en fait, le chemin de consolation pour moi a été très long. Parce qu'il a été bloqué par un sentiment humain naturel qui est la honte. Hein. Je pense que quand on vit un viol, on a honte, malheureusement. On est la victime, mais les victimes ont honte. Elles se disent « je ne me suis pas défendue, comment ça se fait ? J'aurais dû dire non. » Et donc déjà, la victime a honte. Et ensuite, deuxième honte, c'est que moi, à la suite de ce viol, je me suis retrouvée enceinte. Et donc, stupéfaction pour une jeune fille naïve de 17 ans. Enfin, j'étais dans un désarroi complet. Et donc, ma mère, puisque j'étais mineure, ma mère a décidé pour moi la solution qu'elle pensait la meilleure et qui était donc l'avortement. Voilà, donc je suis encore aujourd'hui émue de parler de cette période parce que, effectivement, ce sentiment de honte m'a longtemps empêché de rentrer dans ce chemin de consolation. Alors, ce que je peux dire déjà, c'est que sur un plan psychique, très vite, après cet avortement, j'ai commencé à avoir des problèmes d'angoisse, des problèmes d'insomnie. Et pendant longtemps, je n'ai pas fait le lien, en fait, entre cet avortement et ces problèmes d'angoisse et d'insomnie. Voilà, et j'ai vécu avec ça pendant longtemps. Et il a fallu... vraiment, je suis rentrée donc dans un travail, mais pas tout de suite, j'ai attendu. Il faut dire que pendant longtemps, je suis restée dans le déni. Hein, c'est-à-dire que je me suis dit, bon, ben voilà, le problème est réglé. Et je voyais pas, je n'osais même pas m'avouer à moi-même que j'avais commis un acte qui était complètement contraire à ma conscience et surtout un acte qui est blessant non seulement pour le corps, non seulement pour le psychisme, mais surtout pour l'âme de la personne. Et ça, il m'a fallu beaucoup de temps pour comprendre.
Oui, puis tu as plongé dans tes études. Enfin, c'est vrai que ce sont des années très importantes. Tu étais une brillante étudiante en plus.
Voilà, alors je me suis consolée.
Tu t'es consolée avec ça.
C'est ça. Alors moi, j'ai trouvé toute seule un chemin de consolation qui a été de me plonger dans mes études. Donc j'ai adoré mes études. J'ai été étudiante en hypocagne et cagne au lycée Janson de Sailly. Ensuite, je suis allée à la Sorbonne et mes études de lettres m'ont passionnée. Et je me suis consolée comme ça, en me plongeant dans les études. Et je pense que ça m'a permis de retrouver l'estime de moi-même. Parce qu'après cet avortement, moi, je me sentais abîmée. Voilà, pour ne pas dire souillée, quelque chose en moi était détruit. Et donc, être brillante dans mes études me permettait de retrouver l'estime de moi-même. Voilà. Et puis, comme beaucoup de jeunes filles, eh bien, j'ai eu un amoureux. Je suis allée danser, je me suis amusée. Et donc, j'ai complètement mis cette histoire d'avortement, on va dire, sous le tapis.
Oui. Et pendant ce temps, quelle était ta relation au Seigneur des Miséricordes ?
Alors, voilà. Ça a été problématique, évidemment. Il faut savoir que moi, étant petite, j'ai eu tout de suite une foi immense, un amour immense pour Jésus, qui a été... D'abord, j'ai eu la chance de rencontrer beaucoup de bons prêtres qui ont ouvert mon cœur à l'amour du Seigneur. Et quand j'ai fait ma première communion, j'avais 7 ans, ça a été une joie immense. Vraiment, j'avais cette belle foi d'enfant. Ma profession de foi aussi, à l'âge de 12 ans, ça a été un cadeau. Je comprends très bien Sainte Thérèse de Lisieux, qui est une sainte que j'aime énormément, qui avait envie d'entrer au Carmel à 14 ans. Moi, je crois qu'à 12 ans, on m'aurait proposé le Carmel, j'aurais dit oui. Mon cœur était complètement ouvert au Seigneur. Et voilà. Et malheureusement, la terrible adolescence m'a fait basculer du côté de la sensualité, du côté de la coquetterie, de la séduction. Et alors, est-ce que j'ai perdu mon lien avec le Seigneur ? Bon, évidemment, j'étais quand même consciente que j'avais commis un grave péché. Donc, pour autant, alors j'ai mis du temps à me confesser. Hein, oui, ça aussi, ça a été long. Je pense que je ne me suis pas confessée tout de suite. Pour vous dire à quel point j'avais mis tout ça sous le tapis. Alors, je me suis tranquillement... j'ai pris mes distances, bien sûr, je me sentais plus digne. Hein. Voilà, quand à la messe, on dit « Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guérie », eh bien moi, je pense que j'ai attendu longtemps cette parole de guérison. Je me suis éloignée parce que je ne me sentais pas digne. Mais mon amour pour le Seigneur était toujours intact. Vraiment, voilà, je me sentais juste un peu comme la brebis égarée et j'attendais que le Seigneur vienne me rechercher.
Tu te cachais un peu comme au jardin d'Éden, quoi.
C'est ça, voilà.
Je me cachais.
Quand j'allais à la messe, j'avais la peine, mais je ne communiais pas. Je ne me sentais pas digne de communier.
Ah, oui.
Et voilà, mais mon amour pour le Seigneur était intact. Et je crois que je n'ai jamais non plus douté de l'amour du Seigneur pour moi. Voilà.
Tu savais qu'il était là.
Oui.
Mais bon, tu étais un petit peu
voilà,
en retrait.
Ben oui, j'étais. Il y a de ces belles paraboles, hein, l'enfant prodigue qui allait manger des caroubes avec les porcs, ben, il se sent pas très propre. Et ben j'étais comme ça, voilà.
Et quand tu as pu faire la démarche de demander pardon, d'aller au sacrement de réconciliation, comment tu as pu accueillir ce pardon du Seigneur ? Est-ce que quel a été ton chemin dans le pardon ?
Alors,
parce que c'est très important, ça.
Oui.
Tu as mis quand même très très longtemps.
J'ai mis très
entre
longtemps.
Le temps de l'IVG, oui. Et puis le temps du pardon, et oui. Puis le temps de la consolation. C'est pour ça que ton chemin est magnifique et que tu acceptes de nous le partager. Mais c'est vraiment important, ces étapes du pardon. Dis-nous un petit peu comment...
Oui.
Comment tu as vécu cela ?
Alors, entre-temps, j'ai vécu quelque chose de très grave parce qu'il se trouve qu'à l'âge de 21 ans, j'ai eu un double décollement de rétine. Bon, j'étais très myope depuis toujours. Et en fait, mes rétines se sont dégradées sans signe, en fait. Hein. Et quand j'ai eu les signes, mes rétines étaient déjà très abîmées. Donc, j'ai été opérée en urgence au 15-20. Et là... Le chirurgien qui m'a opérée m'a dit « Vous ne serez pas aveugle, mais je dois vous prévenir que vous allez être gravement handicapée et vous aurez besoin d'une canne blanche. » Donc, ça a été un choc évidemment immense, puisque j'étais étudiante, je voulais être professeure et j'ai eu l'impression que ma vie s'arrêtait. Et j'ai eu 5 opérations aux yeux pour sauver mes rétines. Aujourd'hui, je vois bien, j'ai eu... voilà. Et ça aussi, c'est tout un chemin de guérison absolument magnifique que m'a offert le Seigneur. Et sur mon lit d'hôpital, vraiment, j'ai crié, vous savez, les paroles du psaume, du fond de l'abîme, « Seigneur, je crie vers toi ». Là, j'ai crié et j'ai senti un apaisement. Alors, je ne vais pas dire que j'entends des voix, mais quand même comme une petite voix qui me disait « Ne crains pas, ne crains pas, crois seulement ». Et voilà, et petit à petit, j'ai retrouvé la vue. Ça aussi, ça a été assez long, en fait. Hein. Et à l'âge, donc après toutes ces opérations, j'ai eu envie d'aller rendre grâce au Seigneur, déjà pour la guérison de mes yeux. Donc, vous voyez, j'avais complètement oublié l'avortement. Et avec mes parents, nous sommes allés à Paray-le-Monial. Donc, c'était en 1984. Et je suis retournée en 1985-86. Je suis retournée 3 années de suite pour rendre grâce au Seigneur, remercier pour la guérison de mes yeux. Et là, j'en ai profité pour me confesser, faire une confession totale et complète et générale. Mais ce qui m'a entraînée là, c'était avant tout la guérison de mes yeux. Voilà. Alors, ce que je dois dire...
Oui, mais le pardon là-dedans, c'est à quel moment tu as fait le début ? C'était avant tes opérations que
Non, il a fallu que je sois atteinte dans mes yeux
pour
crier vers le Seigneur. Voilà.
D'accord.
Voilà, j'ai eu peur. Je me suis dit, c'est pas possible. Je vais me retrouver aveugle à 21 ans. Et là, la peur m'a entraînée sur ce chemin de pardon. Pour autant... bien sûr, j'ai reçu le pardon de l'Église. Hein. Vraiment, je n'ai jamais été confrontée. Je me suis sentie accueillie. Mais c'est assez étrange. Ce n'est pas parce qu'un prêtre m'a donné l'absolution que j'étais en capacité de me pardonner. Voilà, c'est ça qui est compliqué. C'est de se pardonner soi-même.
Et d'accueillir le pardon de ton enfant.
Alors ça, c'est la dernière étape qui est encore plus compliquée. Parce que j'ai eu la joie d'être mère, donc j'ai 3 grands-enfants. Et il se trouve que lors de la naissance de ma première fille, donc c'était une très belle nuit, c'était la nuit de la Saint-Jean, 1989, quand elle est née, ça a été évidemment une joie immense d'accueillir cette petite fille magnifique. Et en même temps, j'ai vécu un deuil, parce que quand j'ai eu ce nouveau-né dans les bras, j'ai pris conscience de la réalité de ce que j'avais fait, c'est-à-dire que j'avais empêché un bébé de venir au monde dans l'inconscience de ma jeunesse et sous la pression de mes parents. Et donc, en même temps que je vivais la joie de l'accueil de la vie, en même temps, je vivais le désastre de la mort. Donc, ça a été quelque chose de très violent en moi. Et ce deuil, voilà, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à vivre ce que j'appelle un deuil défendu, puisque... je ne pouvais en parler à personne. C'était même incompréhensible pour moi, en fait. Et voilà. Et pour moi, c'était très compliqué. Il m'a fallu vraiment des années pour comprendre que cet enfant que je n'ai pas pu laisser venir au monde, j'aurais dû être mère à 18 ans, donc, que cet enfant me pardonne. Ça a été très long.
Tu avais quel âge quand tu as eu ton premier bébé?
J'avais 27 ans pour ma première fille.
Ouais, quand tu as vécu cela.
Voilà. Ouais. Et ce deuil a été réactivé à chaque naissance. Hein, c'est-à-dire que j'ai eu une deuxième fille quand j'avais 31 ans et un fils à 33 ans. Et à chaque fois, cette joie immense de l'accueil d'un bébé magnifique, eh bien, au fond, il y avait quelque chose qui était « oui, mais il me manque le bébé de mes 18 ans ».
Voilà. Et donc, comment as-tu continué ce cheminement pour aller plus avant dans la consolation à laquelle nous venons aujourd'hui inviter chacun à avancer ?
Alors, comment je suis allée plus avant ? Bon, déjà, je pense que je suis très gâtée. C'est que vraiment, le Seigneur est très miséricordieux pour moi. Et il a toujours mis sur ma route des personnes qui m'ont tendu la main, qui m'ont dit à quel endroit aller. Alors, j'ai fait pendant plusieurs années, je faisais des retraites à Béthanie, qui est un centre spirituel orthodoxe, où j'ai eu la chance d'être accueillie par Alphonse et Rachel Gutmann. Et là, j'ai vécu une première consolation avec un premier accueil de cet enfant non-né et une cérémonie où on a pu donner un nom à cet enfant. Il se trouve que cette première session, c'était une session de méditation. Moi, j'allais là pour apprendre à la méditation chrétienne. Voilà. Et donc là, voilà, ça a été une première étape. Ensuite, il y a eu beaucoup d'autres rencontres. J'ai fait une formation pour participer, pour être écoutante à l'association Agapa, et ça a été aussi un chemin de guérison et de consolation. Et puis je crois que l'étape ultime est vraiment immensément consolatrice pour moi, bien justement, c'est la rencontre de Joël Rosenfeld, qui faisait partie de la vigne de Rachel et qui m'a invitée à une session de la vigne de Rachel. C'est très récent, j'y suis allée en juin 2022, donc vous voyez le temps qu'a pris mon chemin de consolation, puisque mon avortement, c'était en août 1979. Donc vraiment, le temps de Dieu n'est pas notre temps. Hein. Le désert, quand on voit les Hébreux traverser le désert pendant 40 ans, ben oui, parfois on traverse le désert pendant 40 ans de silence, de honte et parfois aussi de déni. Et donc, la vigne de Rachel avec Monique, avec Géraldine, avec les autres participants, où on a vraiment pu ouvrir notre cœur les uns aux autres, avec l'accueil d'un prêtre qui a reçu nos confessions, et avec une messe où nous avons offert nos enfants non-nés au Seigneur. J'ai vraiment vécu, je me suis sentie comme Lazare. Voilà, Lazare qui sort de son tombeau. Je crois qu'il devait être stupéfait. Je crois que j'ai vécu cette stupéfaction de me dire « Waouh, je sors de mon tombeau. Enfin, les bandelettes tombent. » Alors évidemment, le passé ne sent pas toujours très bon, c'est vrai. Hein, mais voilà, je suis sortie guérie.
C'est tellement bon de renaître à la vie,
oui,
n'est-ce pas ?
Oui,
mais oui, mais c'est ça.
Voilà.
Et nous disons, c'est vrai que nous sommes un peu des ouvreurs de tombeaux pour que Jésus puisse venir mettre sa puissance de vie et donner, de rencontrer les petits qui sont dans le ciel et qui n'attendent que cela.
Oui.
Parce qu'une étape vraiment importante de cette consolation, n'est-ce pas, c'est la rencontre de Jonathan.
Voilà, alors mon enfant, l'enfant de mes 18 ans, j'aurais aimé l'appeler Jonathan, et j'ai pris conscience qu'il était vraiment vivant. C'était c'était très compliqué pour moi. Non seulement il est vivant dans le ciel, donc il me précède, donc j'ai quelqu'un qui m'attend dans le royaume des cieux, et ça déjà c'est une immense consolation. Et j'ai pris conscience qu'il me pardonnait, parce que moi j'avais ce poids sur la conscience de me dire mais peut-être que ça aurait été quelqu'un de super. Voilà, enfin, il manque une âme dans ce monde. Il en manque beaucoup d'ailleurs, puisque malheureusement il y a 220 000 avortements par an en France, et dans le monde je ne connais pas les chiffres, mais je crois que c'est assez voilà. Et donc il manque beaucoup d'âmes.
Hein. À peu près 70 millions par an.
Voilà, donc il nous manque beaucoup d'âmes. Voilà.
70 millions sur le chiffre de l'OMS sur la planète. Voilà. Par an.
Donc, il nous manque des belles âmes, des âmes joyeuses. Et puis, donc, vraiment prendre conscience qu'il me pardonnait, mais complètement. Et non seulement il me pardonne, mais maintenant, il veut que je sois heureuse et il veut que j'accueille la vie en plénitude. Voilà, Jésus nous a promis, il a dit « Je suis venu pour que vous ayez la vie et que vous ayez la vie en abondance ». Eh bien moi, avec Jonathan dans mon cœur, c'est un surcroît de vie en fait.
Et ce que tu fais aujourd'hui, en acceptant publiquement d'être sentinelle de l'invisible, comme nous y invitait d'ailleurs Jean-Paul II hein, dans son dernier voyage à Lourdes, mais c'est vraiment très, très, très important comme démarche. Merci, merci, bien, Sylvie, parce que c'est essentiel de se rejoindre les uns les autres et d'oser
oui.
Vraiment donner cette place et être voix des sans-voix. C'est ce que nous c'est désirons ça. Être aujourd'hui. Hein.
Voilà, et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre. C'est l'Esprit Saint qui m'a poussée. Pendant le confinement, j'ai entendu « Vas-y, maintenant, écris, tu as la maturité pour le faire ». Et donc, je me suis vraiment dévoilée dans ce livre. Ça n'a pas été facile. Et donc, je l'ai intitulé « Le deuil défendu pour retracer tout ce parcours de guérison spirituelle.
Ouais. C'est vrai qu'il est bon de tenir cachés les secrets des rois, mais il est glorieux de révéler et célébrer les œuvres de Dieu. Et à travers cela, c'est ce que tu fais. Et en fait, les témoignages, ils rendent gloire à la miséricorde divine, tout en continuant de lever un peu le voile sur le mystère des petits-enfants du ciel que peu à peu, nous soulevons à travers nos émissions. Se laisser inviter par le Seigneur pour devenir instrument en ayant été consolé et guéri. Alors, je citerai une petite phrase de Bénédicte de Lelis dans son livre sur la consolation, quand elle évoque le Saint-Pape Jean-Paul II qui, à temps et à contre-temps, nous invitait à défendre la vie. Elle dit, c'est en évoquant la participation à la rédemption. Parce qu'à travers nos souffrances, les épreuves de notre vie deviennent une bonne chose en Dieu. Il est émouvant d'observer que nous ne sommes pas sauvés du mal comme des marionnettes ou des épaves inertes. Le Christ nous offre de participer à notre réconciliation et à celle des autres avec Dieu. C'est ce que tu fais aujourd'hui, Sylvie. Merci.
Avec la grâce du Seigneur voilà. Et avec la force de l'Esprit-Saint.
Imagine quelle gloire, quel infini bonheur si une seule personne dans ce vaste monde, lorsque nous serons arrivés au ciel, pouvait nous regarder en disant « Tu m'as aidé grâce à ta souffrance unie à celle de Jésus. Je suis là, je suis revenu vers Dieu. » J'ai été consolée ou apaisée et je passe aujourd'hui l'éternité à danser de bonheur avec toi devant sa face. Cela vaudrait tout, n'est-ce pas? Toutes les peines, toutes les larmes. Alors vraiment, un très grand merci hein, pour cela. Donc c'est vrai que le Seigneur, il souhaite, comme dans l'Évangile, il redonnait l'enfant à sa maman, à la veuve de Naïm qui pleurait cet enfant unique, eh bien, à sa façon, à chacun de nous, même les tout petits, les plus petits, de toute façon, ils continuent de grandir et l'enfant, il désire être consolé. La seule chose qui lui manquerait, c'est que sa maman soit consolée. Donc vraiment, c'est son désir le plus profond et c'est ce qu'il fait. Alors, je me permettrai de citer une prière qui nous a été donnée dans la newsletter de la Vigne de Rachel au mois de mars, qui est sur la relation la plus importante avec Jésus. Et c'est Jésus qui nous parle. « J'ai été envoyé pour te sauver. J'ai été envoyé pour te racheter. » J'ai été envoyé pour détruire les œuvres du diable. J'ai été envoyé pour habiter dans ton cœur. J'ai été envoyé pour ouvrir tes yeux. J'ai été envoyé pour te rendre libre. J'ai été envoyé pour être le pont entre toi et mon Père. J'ai été envoyé pour être ton exemple de vie. J'ai été envoyé pour apporter la lumière qui surmonte les ténèbres. J'ai été envoyé pour libérer les prisonniers. J'ai été envoyé pour guérir ton corps, pour guérir ton esprit. J'ai été envoyé pour t'apprendre à être un vainqueur. J'ai été envoyé pour mourir, afin que tu puisses vivre avec moi pour toujours. J'ai été envoyé pour dire ce que le Père dit et fait, ce que le Père fait. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis ici avec toi et en toi. Alors, maintenant, je dois modifier mes pensées et mes priorités et les mettre dans le bon ordre. Parce que Jésus devrait être la relation la plus importante que j'ai ou que j'ai jamais eue. Il a payé de son prix pour que je puisse vivre. Je suis à lui. Alors, nous pouvons faire nôtre cette prière, mais aussi savoir que c'est aussi celle des enfants qui sont avec Jésus et qui désirent vraiment pour nous ce bonheur. Nous rappellerons le livre donc, que Sylvie nous partage son témoignage, « Le deuil défendu ». Regardez en face la blessure de l'avortement, les éditions Saint-Léger, les impertinents.
Chers auditeurs de Radio Maria, vous écoutez l'émission Miracle de la Miséricorde avec Monique Lecoufle et Sylvie Le Petit. Je vous rappelle que Sylvie Le Petit a écrit un ouvrage intitulé « Le deuil défendu » et notre thème d'aujourd'hui, « Invitation à entrer dans la consolation ». Monique et Sylvie, nous avons une auditrice qui a envoyé un SMS donc, et qui donne du coup son témoignage. Je lis donc le SMS de Clotilde. « Bonjour, je suis en larmes, tout remonte à nouveau, même drame dans ma vie à 17 ans et demi. Je n'ai rencontré Jésus et mon chemin de foi fut long. » À seulement 34 ans, lors de la naissance de mon deuxième fils, seul dans une salle d'accouchement. Le papa m'avait abandonné 3 mois plus tôt. Aujourd'hui, à 55 ans, je n'ai rien fait pour cet enfant au ciel. Vos contacts m'aideront sûrement. Merci infiniment de votre témoignage. Et c'est signé Clotilde.
Chère Clotilde, vraiment, nous espérons, Sylvie et moi, que par nos voix, Vous pourrez ouvrir des chemins vraiment. Et sachez que votre enfant du ciel, d'une part, c'est un grand protecteur pour votre famille et pour vous-même, bien sûr, très spécialement. Mais il désire vraiment, vraiment consoler sa maman. Alors, c'est vrai que, par exemple, demain, nous confions cela à votre prière. D'ailleurs, espérons que les retraitants pourront arriver. Mais nous avons une retraite de la vigne de Rachel. Nous ne savons pas dans quelle région vous êtes, madame, mais Clotilde. Mais voilà, regardez le site lavignederachel.net, par exemple. C'est pas trop difficile d'y participer dans la mesure où c'est juste un week-end. Et un week-end, ça, c'est du vendredi après-midi au dimanche. Donc, c'est pas trop longtemps quand on a la famille en responsabilité, bien sûr. Et autrement, il y a aussi des démarches individuelles à vivre. Regardez aussi avec Mère de Miséricorde. Enfin voilà, là où vous êtes, je ne sais pas où vous êtes. Si vous voulez, vous pourrez demander à Sandra pour entrer plus particulièrement en contact autrement que par le petit SMS. Mais merci beaucoup, beaucoup de l'avoir adressé. Et ce soir, nous avons une veillée pour la vie, qui est mensuelle d'ailleurs, à Saint-Louis-d'Antin à Paris. La messe solennelle offerte pour les enfants et leurs familles, les enfants qui ont été confiés durant le mois à Saint-Louis-d'Antin. Elle est à 19h30, suivie d'un temps d'adoration avec méditation et chant jusqu'à 21h précise. Voilà, donc nous prierons pour vous. Et si, par exemple, j'ai cité ce petit livre de Bénédicte de Lys, « Lettre à ceux qui attendent la consolation », qui est édité chez MAM. Alors, bien sûr, c'est pour toute consolation, pas que celle de la perte des tout-petits, mais ça peut aider aussi je dirais, à continuer d'ouvrir ce que vous ressentez aujourd'hui, parce que l'important, c'est d'ouvrir votre cœur à ce que le Seigneur désire vous donner, et faites confiance qu'il va vous conduire là où vous serez le plus puissamment et doucement consolé.
Alors, Clotilde répond qu'elle est près d'Aix-en-Provence et qu'elle travaille jusqu'au dimanche 14h. Voilà, alors je pense que Clotilde, que vous pouvez, vu que ce n'est pas très loin, vous rendre à la Sainte-Baume.
Oui, il y a la...
Voilà, je suis allée à la Sainte-Baume au début du carême et c'est vraiment un endroit où on peut effectivement déjà d'une part être très bien accueilli par la communauté et puis accueillir la consolation. Début juillet, il y a, à partir du 2 juillet, il y aura une session de Mère de Miséricorde.
Alors là, c'est une semaine.
Voilà, c'est une semaine de consolation. Donc... Clotilde, laissez-vous guider par votre enfant, il vous précède et faites-lui confiance.
Il y a aussi des sessions de la Vigne de Rachel dans la Drôme à Marsanne, près de Montélimar. Vous pouvez, avoir un accompagnement individuel. L'important, c'est de garder ouvert votre cœur et savoir que votre enfant... Il est auprès de Jésus et il continue son chemin et il désire vraiment que maman soit pleinement consolée. Il vous aime.
Alors nous avons également un message de Claudine et nous terminerons avec ce message. Bonjour, j'ai vécu moi aussi un avortement à 19 ans. Je m'en suis confessée auprès d'un prêtre, je lui ai donné un prénom, mais je n'arrive pas à me pardonner. J'ai le bonheur d'avoir 3 enfants et 7 petits-enfants. Bonne journée, et c'est signé Claudine.
Eh bien, que la consolation se poursuive pour vraiment, vraiment pouvoir arriver à se pardonner, comme nous y invite d'ailleurs Saint Jean-Paul II dans l'Évangile de la vie. Article 99, reprenez-le pour pouvoir avancer dans ce cadeau de la miséricorde. Et voilà. C'est miracle.
Et il n'est jamais trop tard, hein, bien sûr, pour continuer sur le chemin. Notre Père du Ciel est patient. Quand on voit le Père du Fils prodigue, comme il attend patiemment et joyeusement le retour de son Fils.
Eh bien, merci beaucoup Monique Lecouffle, merci Sylvie Lepetit. Donc, nous sommes au terme de notre émission. Est-ce que vous souhaitez peut-être l'une ou l'autre ajouter un message pour les auditeurs de Radio Maria ?
En tout cas, nous sommes certaines toutes les deux que le Seigneur désire vraiment, vraiment consoler, mais vraiment chacun. On est dans le temps de la consolation. Jésus est venu tout prendre sur lui pour nous manifester cet immense amour, qui est vraiment, vraiment, on est en train d'entrer, d'aller vers la résurrection et le temps de la consolation en plénitude. Alors que chacun en soit certain et que simplement c'est vrai qu'il faut accepter d'ouvrir et accepter de se reconnaître vraiment si démuni devant cet amour qui se donne à nous et l'accueillir. Mais savoir que les enfants sont vraiment des puissants intercesseurs de cet amour et c'est tout ce qui leur manque au ciel. Alors vraiment, faites-leur plaisir et accueillez cet amour. N'est-ce pas Sylvie ?
Oui, et Jésus est mort sur la croix pour nous, hein, pour tous, et sans exception, hein, vraiment. Il n'y a aucune exception. Quand on lit l'Évangile, on voit que Jésus, partout où il va, c'est écrit, il les guérissait tous. Donc, il ne fait pas de tri. Hein. Donc, être bien conscient que la guérison, elle est pour tout le monde.
Eh bien, merci beaucoup. Et puis, à très bientôt pour une nouvelle émission.
Merci Sandra, bonne journée. Reprenez Isaïe 40, c'est magnifique, le livre de la consolation.
Merci beaucoup, à très bientôt.
À très bientôt.
Chers auditeurs de Radio Maria, c'était l'émission Miracle de la Miséricorde avec Monique Lecouffle, accompagnée aujourd'hui par Sylvie Lepetit. Le thème d'aujourd'hui, invitation à entrer dans la consolation, et vous pourrez réécouter cette émission en podcast sur notre site internet www.radiomaria.fr.